T'as pas amené encore. Non, hein? Gloire à Dieu. Ah! Chance que là-bas, s'y a-t-il. Merci, merci, merci. Alors, on se rejoint pour le 11 novembre. Amen. Le 11 novembre demain, j'espère que vous passez une bonne fin de semaine. J'espère que vous passez du temps demain à se rappeler, se souvenir. Amen. Se souvenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que parmi vous, dans vos familles, y a-t-il quelqu'un qui était à la guerre? Oui? Oui? Oui, moi aussi. Hein? Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a une petite histoire de quoi ce qui peut-être qu'ils vous ont rencontré? J'en en dire une, puis après tu diras. Oui.
Mon père était prisonnier de guerre.
Prisonnier? Wow. Amen. Wow.
Ah. Hmm. Alors, escapé, puis là, ça te l'air qu'ils ont laissé escapé pour les usages de target practice.
Ah, ouais.
Il y a beaucoup qui ne l'ont pas fait.
Wow. Wow. Hmm. C'est des histoires, hein? Oh, mon oncle était à la guerre, puis il me contait que lui était celui qui mettait des bombes ou des bullets ou quelque chose dans les gros canons, là. C'est lui qui les prenait, puis qui les mettait dedans, puis qu'il faut qu'il pousse avec un bâton. Puis il disait que c'était lui qui était le plus vite à faire ça. Puis anyway, il faisait ça beaucoup, beaucoup, puis il y avait beaucoup de ses amis, bien sûr, meurent à côté, puis des choses terribles qui ont passé à travers, hein? Nos parentés, ces gars-là. Avez-vous une histoire, vous autres? C'était qui qui...
Non, mon oncle, je n'ai jamais rendu des mots avant.
OK.
Il était jeune, ça fait-tu à Halifax.
OK.
Comme qu'il pratiquait, il alliait un target de la plane, puis ils ont tiré pour le target, puis ils ont fait un guide, le gouverneur de la plane, la plane a crashé.
Ah! Donnez leur vie, hein? Donnez leur vie pour leur pays. On pense ça d'une journée, nous autres. On pense ça, ouais, ces personnes-là ont donné leur vie. Même s'ils n'ont pas donné leur vie, on sait qu'ils ne sont pas morts en guerre, ils allaient, étaient prêts à donner leur vie pour leur pays. On a besoin de se souvenir. Amen. De juste qu'on devient. Merci pour eux, il faut juste qu'on ait aujourd'hui. La libération que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Alors demain, on va le faire aussi aujourd'hui. Mais le district nous envoie toujours un petit vidéo à propos des jours de souvenirs. So, s'il vous plaît, peut-être on peut se lever debout et écouter le vidéo ensemble. Peut-être tu peux éteindre les lumières.
You get scared, all right. Three of us were going up to the top of Vimy Ridge to see what was on the other side. Well, the Germans are firing shells at the time, but they're all going way back overhead. We figured it was safe to go. Well, we hadn't gone far when one of those shells was coming right for us. I dropped to the ground, and I guess perhaps the other did, I don't know, but the middle fellow was killed.
Jésus dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc aujourd'hui, en ce temps de commémoration nationale, en tant que fiers Canadiens, nous remercions Dieu pour ceux qui ont donné leur vie comme dernière mesure de dévotion pour le Canada, protégeant nos foyers et nos droits. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu notre Père, Jésus-Christ son Fils, et le Saint-Esprit pour tous les Canadiens et Canadiennes et pour leur service pendant la Première Guerre mondiale. la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, les diverses missions de l'OTAN et des Nations unies. Ceux dont on se souvient aujourd'hui comprennent les anciens combattants de l'armée, de la marine, de l'aviation, de la marine marchande et les policiers qui ont représenté le Canada à l'étranger en temps de conflit et de paix. En tant que chrétiens, nous sommes profondément reconnaissants pour la liberté d'adorer, la liberté de prier, de témoigner, la liberté d'aimer comme Christ nous a aimés, la liberté de pratiquer notre foi. Ne prenons pas cette liberté à la légère. Aujourd'hui, nos cœurs sont pleins de gratitude parce que nous sommes libres. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants et nous nous souvenons.
Amen. 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 Merci. Alléluia. On ne les oublie pas. On se souvient. Si vous pouvez aller à une célébration demain quelque part, s'il vous plaît, allez-y. C'est bon de se souvenir, de se rappeler. Amen. Une autre chose qu'on devrait se rappeler aussi, et c'est ma prédication pour ce matin. Encore, le district nous envoie des choses qu'une fois par an, on devrait repenser ou se souvenir des églises persécutées. Et c'est le sujet que j'aimerais vous parler ce matin, nos églises persécutées. J'aimerais vous parler de ces églises parce que nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde, et j'espère que ça porte en nous une abondance, un avantage de prière pour eux, de se réveiller encore à la prière pour eux, pour les familles qui sont, les familles, les hommes, les personnes qui sont persécutées, qui sont dans le besoin autour du monde, autour de nous et autour du monde. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a plus que 365 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés dans le monde? Pensez-y, 365 millions de chrétiens qui sont persécutés. Ça veut dire que 1 sur 7 chrétiens est persécuté. Et c'est la raison pour les réserver. À chaque 7 places qu'il y aurait à s'assire, il y aurait une personne qui est persécutée. Juste ici. Il y en a plusieurs, hein? 25. Si l'église serait pleine, 25 personnes qui sont dans l'église qui seraient persécutées. 1 sur 7. C'est grave. C'est grave. Le verset que j'aimerais utiliser ce matin se trouve dans Romains 8, 35 et 39. 35 à 39. Romains 8, 35 à 39. Si vous avez vos Bibles, si vous les suivez sur l'écran. Romains 8, 35 et 39 nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution? La faim, le dénuement, le danger, l'épée. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni la présence, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta présence, Seigneur Jésus, pour ta croix, Seigneur. Merci pour ton amour que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, ce matin, que tu réveilles notre esprit, nos cœurs, nos âmes, Seigneur Jésus, elle a besoin, Seigneur Jésus, d'être de prière pour ces personnes qui sont persécutées, Seigneur. Ces personnes entre nous qui passent des épreuves, ces personnes entre nous qui passent des maladies, ces personnes entre nous, Seigneur, qui sont persécutées. qui ont faim et qui ont soif. So, Seigneur, réveille notre esprit, je te prie en ton nom. Amen. 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 Alors, ces versets nous enseignent que la persécution et la souffrance sont normales pour le chrétien. Mais que ces difficultés ne peuvent pas nous séparer, par exemple, de l'amour de Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur nous donne la responsabilité, par exemple, à chaque chrétien, de manifester notre amour à travers la prière, parfois à travers de manière concrète envers nos frères et sœurs persécutés et vulnérables. Lorsqu'on voit la résilience de beaucoup de ces chrétiens qui font face à ces persécutions, cela nous montre la réalité de cette promesse que nous avons lue. Ils sont résilients, ils continuent, même dans le Seigneur, même à travers toutes les difficultés. C'est l'amour de Dieu qui les tient. J'aimerais vous faire remarquer quelques certaines choses lorsque nous parlons de la souffrance et de la persécution ce matin. Premièrement, la souffrance est universelle. Universelle, à travers le monde. Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus, les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui veulent plaire et servir Dieu. Toujours. Jésus explique ça, la persécution, dans ses paroles dans Jean 15, 19 et 20. Il nous dit, « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. L'opposition que les chrétiens rencontrent n'est pas seulement causée par les difficultés de la vie ou par les conflits qui secouent notre planète maintenant. Elle vient aussi d'une haine que le monde a, développée contre Dieu, contre son Fils et, conséquence, par chacun de nous. Une haine de Dieu, une haine des choses qui est à propos de Dieu. On est traité de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ l'a été. Et la Bible nous révèle que l'origine de ces combats est spirituelle. Éphésiens 6, 12. Ce combat est spirituel. Dans plusieurs endroits, cette souffrance peut aller même jusqu'à la mort. Dans le premier siècle, les chrétiens étaient exposés à une persécution féroce. Et plusieurs d'entre eux sont morts martyrs. Et la Bible nous en présente. Jacques, l'un des trois plus proches apôtres de Jésus, mourut dans les premières années de l'Église. Actes 12, 1 et 2 nous dit, « À cette époque-là, le roi Hérode se met à maltraiter les membres de l'Église et il fut mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. » Une haine pour les chrétiens, une haine pour Dieu. L'opposition à Dieu et à ses enfants est vraiment présente dans la Bible. Elle l'était dans l'histoire du passé et elle est dans l'histoire d'aujourd'hui aussi, dans le présent. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens font face à des menaces, des abus, pas croyables, qu'on a de la misère à concentrer à ça, à se voir là. Un exemple, Jérôme, Peux-tu aller de l'arrière? Non? OK. Jérôme. Amen, merci, c'est beau. Jérôme est un chrétien qui vit dans un camp de personnes déplacées à Oka, que ça s'appelle. C'est une place nord-est de la République démocratique du Congo. Et lorsque je préparais ce message, je pensais, cette église ici a fait des choses pour le Congo. Hein? À un moment donné, on avait soutenu le Congo longtemps. Mais c'est ça, il vient du Congo. Jérôme a dû quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées, ils appelaient les ADF, un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Il nous dit, « J'ai fui parce que des membres de ADF avaient tué mon fils. » Toute la récolte qui était dans la maison avait été brûlée. De nombreux civils ont été tués. La moto a été brûlée. Nous n'avions plus rien. Tout était parti. Il était obligé de fuir. Le pasteur Barnabas. The cursor, is it the middle? The cursor? Le pasteur Barnabas de Nigeria, a été brutalement attaqué par des militants Peuls, qu'ils les appellent. Un autre groupe islamique responsable de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord de son pays. Affreux. Je vous montre une vidéo qui nous a été envoyée, bien sûr. Et moi, j'avais regardé ça, j'ai trouvé ça un peu graphique, mais c'est une vidéo de quoi ce qui se passe. Amen. Alors, je vous montre une vidéo de pasteur Barnabas.
Let me tell you.
Laissez-moi vous dire, ici, dans notre région, des millions de chrétiens sont déplacés. Ici, au Nigeria, des millions de chrétiens sont déplacés dans toute l'Afrique. Les médias n'en parlent pas. Les hommes politiques n'en parlent pas. Les gouvernements n'en parlent pas. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Comme si Dieu ne savait même pas pourquoi il nous a créés.
Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés internes de Benue, au Nigeria. Barnabas est l'un des milliers de chrétiens à vivre ici. Pour la grande majorité, ils ont été chassés de chez eux par des attaques d'extrémistes Fulani.
C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. La plupart des personnes que vous voyez sont des femmes. La plupart des hommes sont sortis à la recherche d'un travail leur permettant d'obtenir de quoi manger pour aujourd'hui. Et cela ne suffira même pas pour un repas, pour une journée. La faim conduit beaucoup d'entre eux à retourner chez eux pour chercher de la nourriture. Et alors, ils se font attaquer par les extrémistes. Ils n'ont pas d'autre choix, ils doivent y retourner. Mais lorsqu'ils y vont, ils sont encore attaqués. Ils doivent alors fuir. Voici ma maison. 3 de nos enfants restent ici avec moi et ma femme. Les autres vont dormir chez le voisin, la nuit tombée. Quand le jour se lève, ils reviennent et restent avec nous, leurs parents. C'est du carton. Mais nous l'utilisons comme toiture pour nous protéger du soleil. Comme vous pouvez le constater, cette tente-là, de là à là, cela fait 1,5 mètre. D'ici à là, il y a 1,5 mètre. Et d'ici à là, 1,5 mètre. C'est plus petit qu'un matelas double.
Les chrétiens nigérians déplacés sont forcés de vivre dans ces conditions déplorables car ils sont particulièrement ciblés par les attaques des extrémistes islamistes.
Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent caparis. Cela veut dire des sans-religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens.
J'étais au champ avec mon frère et sa femme. Nous travaillons. Lorsque nous avons entendu des tirs rapides, des bruits d'armes à feu, nous ne savions pas ce qu'il se passait. Nous avons demandé, « Que se passe-t-il ? » On nous a dit, « Courez, courez !» C'est à ce moment que mon frère a été abattu par les extrémistes. La femme de mon frère a également été touchée et tuée, achevée à coups de machette par les extrémistes.
lors de cette même attaque, Barnabas a été gravement blessé au bras. Il en garde des séquelles.
Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ici notre église et les gens dont je suis le pasteur. Ils sont là parce que le soleil est trop haut. Il fait trop chaud. Cet endroit est à l'ombre. Ils s'assoient à l'intérieur pour se reposer. Regardez, il n'y a pas de bâche sur le toit. Il n'y a rien qui tient dessus. Mais nous avons réussi à bricoler ça pour qu'il y ait au moins un peu d'ombre. On peut s'abriter, en espérant que le lendemain sera meilleur. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Quand je prêche, on vient me demander, où est donc notre Dieu? Si notre Dieu est vivant, alors pourquoi permet-il que nous passions par toutes ces souffrances? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Leur esprit a été découragé de Dieu. Et cela les pousse à poser ces questions. Quand vous croisez quelqu'un et que vous lui dites « Viens, allons à l'église », il répondra « Laisse-moi tranquille, je suis fatigué. » Et si je vais à l'église maintenant, quand je rentrerai, qu'est-ce que je vais manger? La situation est très, très mauvaise. Nos femmes, elles se prostituent. Si vous allez sur la route vers 19-20 heures, vous verrez des choses terribles. Des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Pourtant, ces femmes étaient de bonnes chrétiennes. Mais à cause de la situation, elles n'ont pas de quoi se nourrir. Elles sont affamées. C'est cette faim qui les pousse à aller se prostituer. Juste pour avoir de quoi ramener à manger pour elles-mêmes et leurs enfants. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Mais les mots me manquent. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Ma prière en tant que chrétien est que le Dieu Tout-Puissant intervienne dans cette situation. Qu'il mène cette bataille pour nous, car la bataille n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Il est le seul à pouvoir dire « Maintenant, ça suffit » et tout arrêter. Nous plaçons notre confiance en lui. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons.
En plein milieu du tournage, Barnabas apprend que son autre frère a été attaqué à la machette par des extrémistes Fulani. Comme beaucoup d'autres, il avait simplement voulu repasser chez lui pour récupérer à manger.
Le réseau est mauvais, je ne t'entends pas. Rejoins-moi devant les vendeurs d'igname.
L'équipe sur place l'a emmené à l'hôpital et nos partenaires terrain ont pu payer pour ses soins. Il s'en est sorti. Mais vous voyez là un exemple parmi tant d'autres du quotidien de millions de chrétiens en Afrique subsaharienne. Nous ne pouvons rester indifférents.
Posez-vous la question. Que feriez-vous à notre place? Si votre frère était à terre, que feriez-vous?
Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. Si vous trouvez le moyen d'agir, si vous pouvez nous aider, d'une manière ou d'une autre, nous les chrétiens qui vivent au camp de déplacés, alors faites-le, et Dieu vous bénira en retour.
Amen. On est bénis, hein? On a mis un roux sur notre église qui a coûté. Nous avons des branches. On a besoin de prier. J'espère que ça nous mette à cœur de prier. L'épreuve de la persécution peut amener les chrétiens à douter, comme pasteur Barnabas a dit, douter de l'amour de Dieu. Le pasteur Barnabas nous avait dit aussi, la faim vous fait perdre confiance en Dieu. Et si vous êtes malade ou si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre un peu de confiance en Dieu. Jérôme, que nous avons vu tout à l'heure, il nous a aussi dit que la foi est affaiblie à travers ces persécutions. Les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas de capacité de leur aider, ils deviennent orgueilleux et arrêtent d'écouter. Il dit aussi qu'il voit beaucoup de jeunes fumer de la marijuana et disparaître pour plusieurs jours. Merci Seigneur qu'il y a une autre chose que la souffrance peut apporter. La souffrance peut apporter, nous approcher plus proche du Seigneur aussi. Amen. Merci Seigneur pour ça. Comme nos versets que nous avons lus, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, peu importe l'intensité de la souffrance. En fait, non seulement la souffrance ne nous séparera pas de l'amour de Dieu, mais elle peut aussi, si nous la laissons, nous approcher encore plus proche de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous le dit dans le chapitre Romains 8, 17. Il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Paul ne considère pas la persécution des épreuves comme des échecs ou comme une défaite pour le croyant. Bien au contraire, il nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Amen. On est plus que vainqueurs. Une expression de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire à travers ces épreuves. Cette persécution est une réalité qui vient aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui nos frères et sœurs. Et c'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous passons des épreuves et des combats. Troisièmement, Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Jésus est présent. Le livre de Daniel nous apporte une histoire extraordinaire que je suis sûr que vous avez entendue. Le roi Nebuchadnezzar exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue en roi de lui. Trois hommes juifs refusent d'obéir le roi. Alors il était fou de rage et a jeté ces trois personnes dans une fournaise ardente, une grosse fournaise. Il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes et qu'avec eux se trouve un quatrième homme. Et comme il le dit, cet homme ressemble à un fils des dieux. Vous vous souvenez de l'histoire? 600 ans plus tard, Étienne est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Il s'exclame peu avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Actes 7, 56. Deux exemples de persécution extrême dont les choses sont radicalement opposées. Dans le premier, les trois messieurs dans la fournaise, les hommes sont miraculeusement sauvés. Dans le deuxième, Étienne meurt, le premier martyr de l'Église. Mais il y a quand même un point de commun entre les deux. Dieu était présent à côté d'eux, à côté de ses enfants persécutés. Dieu est là, qu'on passe son travers ou pas. Dieu est là, parmi nous. Aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu un contact extraordinaire avec le Seigneur dans les moments où les plus difficiles de leur vie. Peut-être que vous avez ressenti ça aussi. Moi, je l'ai ressenti. Passant un temps difficile de ma vie, puis je ressentais que le Seigneur était proche de moi. Passer du temps remarquable avec le Seigneur que j'oublierai jamais. Dans des temps difficiles parfois, on est encore plus proche, on peut être plus proche du Seigneur. C'est bien pour cette raison que nous devons chercher à nous tenir proches de lui, proches du Seigneur, le rencontrer chaque jour, trouver cet amour qui nous remplit à chaque jour, qui nous permet d'avancer. Matthieu 6:6, comme vous connaissez bien, nous dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Amen. On a besoin de passer du temps. Une autre chose que nous avons lorsque nous passons dans la souffrance et dans la persécution, la promesse de la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. C'est une certitude. Cette certitude est comme un ancre qui ne peut nous arracher par aucun moyen, aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu et par Jésus-Christ. Garantie. La persécution amène les chrétiens à envisager un avenir un peu plus loin. Amen. Un peu plus loin. Au-delà de la mort. Et saisi par la foi la réalité de l'éternité. Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu à tout moment, nous explique dans Romains 14:8, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Amen. 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 Quelle promesse. Amen. Quelle bénédiction. La persécution et l'épreuve nous amènent, comme Étienne, comme Paul, comme Pierre, à passer des persécutions, à considérer notre existence éternelle. Cette perspective est un rappel puissant de l'amour de Dieu qui nous accompagne beaucoup plus loin que cette terre, au-delà de la mort. Peut-être que Dieu permet-il une épreuve ou une difficulté dans nos vies pour nous amener, nous autres aussi, à se détacher des regards de ce monde et à s'attacher à considérer ce qui est vraiment important à ses yeux. Amen. Amen. Alors, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'abandonne pas. L'amour de Dieu n'abandonne jamais ses frères et sœurs en persécution, de même qu'il ne nous abandonne jamais. Trouvons en lui le confort et la force de traverser des épreuves comme vainqueurs par sa présence, par les promesses et l'espérance qu'il nous offre. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous montre aujourd'hui qu'ils ont besoin de nos prières. Priez souvent pour eux. Si vous voulez faire un don monétaire avec l'argent, il y a toujours Erdo dans les PAOC. Vous pouvez aider, ça va pour ces personnes. Beaucoup de manières, mais on a besoin de prier pour ces personnes. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le confort qu'on voit, qu'on prend pour acquis. Merci. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, pour ces personnes, Seigneur, dans ces pays, dans le Congo, Seigneur, dans l'Afrique, au Malawi, Seigneur Jésus, Haïti. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, pour une force surnaturelle qui vont sur eux, Seigneur. Continue à les soutenir, Seigneur Jésus. Continue à les soutenir, à les garder, Seigneur Jésus, dans ta voie. Je pense à ces enfants qui demandent des questions et qui ne vont pas avoir de réponse. Je te prie que tu les gardes, Seigneur. Que tu les protèges, Seigneur, des ruses de l'ennemi, Seigneur. Que tu leur donnes un encouragement, Seigneur Jésus, par ton esprit, Seigneur. Seigneur, va toucher ces personnes, Seigneur, je te prie. Seigneur, je te remercie, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait encore ce matin. Et Seigneur, on t'attend. Seigneur, on attend, Seigneur, des résultats, Seigneur, des guérisons. Seigneur, que tu fais dans les vies, Seigneur. Des changements de cœur, des libérations, Seigneur. Des délivrances, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, qu'est-ce que tu fais. Seigneur, on te donne cette journée, le restant de cette journée, cette semaine, Seigneur. On prie que tu nous utilises. J'utilise, Seigneur, puissamment. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.